Chapitre 4. En descendant du train qu'il avait amené de Saint-Pétersbourg à Paris, 6 semaines auparavant, le duc de Bligny, fatigué par le trajet accompli d'une seule traite dans un sleeping-car où il avait été fort secoué, s'était fait conduire au cercle. N'ayant pas d'appartement préparé et l'hôtel de sa tante étant fermé, Gaston avait trouvé très pratique de s'installer dans une des chambres que les grands cercles tiennent toujours à la disposition de leurs membres. Il comptait rester 8 jours au plus à Paris, juste le temps de finir ses affaires au ministère et de faire quelques achats dans les magasins, puis partir pour Beaulieu. Depuis près d'un an, il n'était pas venu en France. Il avait vécu dans le grand monde russe, de cette vie parisienne artificielle qui est le suprême bon ton à l'étranger, mais qui ressemble à la haute vie mondaine de Paris comme un caillou du Rhin ressemble à un diamant de Wisapour. La corruption raffinée des Slaves s'était cependant emparée de lui, et il avait trouvé une grande douceur à cette existence mélangée de mollesse asiatique et d'activité européenne. Les grandes dames russes l'avaient captivé par la grâce onduleuse et le charme énigmatique de leur beauté. Il avait voulu connaître le secret de ces sphinx souriants, aux yeux pleins de troubles et aux griffes pleines de menaces. Joli garçon, bien élevé et porteur d'un grand nom, il avait été fort recherché. Et peu à peu, l'image de sa fiancée, si fidèlement gravée dans son cœur, s'était effacée comme ces beaux pastels de la tour dont les couleurs pâlissent avec le temps. Loin de Claire, il se considéra d'abord comme en exil et voulut vivre sévèrement. Mais le moyen de se cloîtrer, quand on est le plus jeune attaché d'une ambassade française, est que, de toutes parts, on se voit l'objet de gracieuses sollicitations. Au bout de 8 jours d'une retraite étroitement observée, Gaston ne put se dispenser de paraître à une des réceptions de son chef. Il endossa donc son harnais de fête et fit son entrée dans la grande société pétersbourgeoise. Dès le premier soir, le jeune duo fut le favori de l'aristocratie russe. Son grand-père, émigré avec le comte d'Artois aux premières heures de la Révolution, avait vécu dans l'intimité des Nesselrod, des Palen et des Gortchakov. Bligny fut accueilli avec la plus flatteuse distinction par les grands personnages de la cour et présenté au tsar, qui traita le jeune attaché avec une faveur très remarquée. Du jour au lendemain, la situation de ce diplomate de 25 ans fut des plus importantes. Et ses supérieurs, assez habiles pour ne pas prendre ombrage de ses succès, songèrent à tirer parti de l'influence que leurs subordonnés avaient conquise en un instant. Mais si Gaston était un élégant cavalier et un homme du monde accompli, il était un fort médiocre politique. Il se jeta dans le plaisir et négligea l'intrigue. Et il fut promptement établi que, si la société de Saint-Pétersbourg avait conquis un hôte brillant, la France n'avait pas acquis un serviteur utile. Voltigeant, bourdonnant, allant de fleurs en fleurs, le duc de Bligny ne fut pas l'abeille laborieuse qui produit le bon miel. Il se montra la guêpe brillante qui butine et fait étinceler son corselet d'or au soleil. Il se révéla en quelques semaines viveur intrépide. Ses nerfs bien trempés défièrent les plus écrasantes fatigues. Il tint tête à souper aux buveurs renommés. Et tout le monde sait comment les Russes boivent. Il joua au cercle de la noblesse une partie de baccarat restée légendaire et au cours de laquelle ses adversaires et lui, pendant 3 jours et 3 nuits, ne se levèrent de la table que pour réparer leurs forces épuisées. Il vainquit les gros pontes, non par sa veine persistante, mais par le sommeil qui les fit tomber exténués sur le tapis. Il fut l'amant de la ravissante Lucie Tellier, l'étoile française du théâtre Michel, et la garda, malgré les tentatives de corruption, des boyards les plus fastueux. Puis, un beau jour, la trouvant ennuyeuse, probablement parce qu'elle était fidèle, il la rendit à la galanterie moscovite. Madame de Beaulieu avait deviné juste. Le duc fut le héros de la saison d'hiver. Il n'y eut pas de bonne fête sans lui, et il lui fut permis d'aspirer à la main des plus riches héritières de Saint-Pétersbourg. Il dédaigna toutes les ouvertures qui lui furent faites, et n'en fut que plus ardemment recherché. Bligny avait du sang de blasé dans les veines. Au bout de 6 mois, l'existence qu'il menait l'ennuya prodigieusement, et il ne trouva de dérivatif à son spleen que le jeu. Il s'était, dès le premier coup de carte, senti joueur jusqu'à l'âme. Il jouait, et avec un bonheur insolent. Il semblait être entré en conquérant dans le monde. Et chaque matin, chargé des dépouilles de ses adversaires, il revenait chez lui, le front serré comme dans un cercle de fer, livide, ayant un goût de poussière sur les lèvres. Il se couchait comme le jour venait, ce jour bas et sombre des hivers russes qui ressemble à un crépuscule. Et il dormait épuisé jusque dans l'après-midi. Vers 4 heures, il se levait et commençait sa journée à l'heure où le gaz s'allumait dans la ville. Il avait arrangé son existence au rebours de tout le monde. Il vivait à l'envers. Et pendant 2 ans, c'est à peine s'il vit le soleil. C'était un papillon de nuit. Sa figure, gracieuse et fine quand il était sorti de sa famille, était maintenant dure et gravée. Ses traits grossis étaient encore fort beaux, mais le charme de la jeunesse, cette fleur des visages frais et reposés, avait disparu. Il avait le masque d'un viveur. Ses cheveux bruns, légèrement frisés et coupés ras sur le front, commençaient à devenir clairs sur les tempes. L'œil d'un bleu indécis était creusé et profond. L'existence enragée qu'il menait laissait sur lui sa trace, plus visible de jour en jour. Sa tante aurait eu de la peine à le reconnaître. Il n'était plus le jeune homme timide, à la voix douce, qui passait ses soirées si paisiblement entre la marquise et Claire dans le grand salon recueilli du vieil hôtel. Mademoiselle de Beaulieu, résolue et décidée, un peu masculine de caractère, l'appelait alors en riant « Mademoiselle Gaston ». Il n'avait plus rien de cette gracieuse mollesse qui le faisait ressembler à une fille. C'était un homme et des plus dangereux. Il s'était découvert des trésors de scepticisme natif. Il ne croyait absolument à rien et mettait son bon plaisir au-dessus de tout. Le sang paternel, calmé en lui par les paisibles douceurs de la vie retirée, s'était mis à bouillonner. Et cette race des Bligny, ardente et passionnée, qui, depuis Henri III, avait fourni à la cour de France ses mignons les plus voluptueux, ses raffinés les plus hardis, ses menins les plus galants et ses roués les plus débauchés, avait en lui un représentant qui faisait honneur à ses ancêtres. Il y avait une vigueur de géant dans ce frêle corps de jeune homme. Tels autrefois ces seigneurs pleins de mollesse et de langueur qui se comestiquaient la figure et les mains, dérangeaient leurs pages plutôt que de se baisser pour amasser leur bilboquet, se faisaient porter dans une litière pour éviter la fatigue du cheval, et qui, au jour de bataille, chargeaient comme des furieux dans la mêlée, avec 100 livres de fer sur le corps, et accomplissaient d'héroïques prouesses. Gaston n'aurait certes pas fait 1 kilomètre à pied dans un but utile, mais il était homme à chasser pendant toute une journée, à s'escrimer, le fleuret à la main, pendant des heures, de façon à lasser les plus infatigables. C'était au jeu qu'il était vraiment dans toute sa puissance. Il semblait forcer la chance par sa volonté, et il gagnait avec une persistance inouïe. Les mains les plus mauvaises devenaient bonnes quand il les prenait. La banque en déveine, quand il attaquait, se montrait inexpugnable si c'était lui qui tenait les cartes. La fortune, pendant 2 ans, le traita en véritable enfant gâté. On ne l'appelait que l'heureux Gaston. C'était vraiment à le soupçonner si sa loyauté certaine ne l'avait pas défendu contre les mauvaises pensées. Les débris de son patrimoine, augmentés des ressources que lui fournissait le jeu, le mirent à même de vivre sur un grand pied. Il eut des chevaux merveilleux, un superbe logement, tout le confort luxueux, indispensable à un homme aussi lancé qu'il était. Quand il arrivait au cercle de la noblesse, la partie prenait un autre aspect. On sentait tout de suite que l'engagement était sérieux et que de grosses sommes allaient tomber sur le tapis. Il ne s'en tenait pas exclusivement au baccarat et au lansquenet. Il faisait volontiers une partie de piquet. Il le jouait habituellement à 1 louis le point avec 100 de queue. C'est à lui que le vieux Nariskine, plus de 40 fois millionnaire, fit cette jolie réponse. Comme Gaston lui gagnait 3 000 louis, il se leva de table en disant « J'aime mieux m'en aller. Si je continuais, je finirais par perdre de l'argent. » Après la représentation de l'opéra ou du théâtre français, ou bien en sortant de la maison où il avait passé la soirée, il montait en traîneau et se faisait conduire le long de la perspective. Chaudement enveloppé de ses fourrures, il aimait à sentir le vent glacé de la nuit lui passer sur le visage. Il se raffermissait ainsi les nerfs pour la partie. et vers 2 heures du matin, il arrivait au jeu tout frais. Il trouvait ses adversaires déjà excités. Et son audace calculée avait alors raison des plus intrépides. Assis devant la table, sous l'éclat brûlant des lustres, il se montrait impassible. Ni le gain, ni la perte ne pouvaient triompher de son flegme. De mémoire de joueur, on avait vu une plus belle tenue. Et quand, autour de lui, les superstitions les plus puériles se manifestaient, il restait grave et comme dédaigneux. Il ne comptait que sur lui, et les fétiches lui faisaient hausser les épaules. Il allait beaucoup dans le monde et eut de nombreuses bonnes fortunes, quoiqu'il ne fût pas de complexion passionnée. Il était trop profondément égoïste pour aimer. La vérité est qu'il se montra bon prince et ne désespéra pas les belles qui lui firent des avances. Il détestait les larmes et n'aurait pas voulu faire du chagrin à qui que ce fût, dans la crainte des doléances et des reproches. Une seule fois, il se crut sérieusement atteint, mais la suite montra bien qu'il s'était flatté. Une des plus grandes dames de l'aristocratie russe, la comtesse Vorsev, célèbre par ses cheveux blonds et ses émeraudes, s'éprit de lui. Très surveillée par son mari, qui était fort jaloux d'elle, la belle comtesse ne pouvait voir Gaston, ni même lui écrire. Très pris, le duc en avait presque oublié les cartes. Il suivait Madame Vorsev dans le monde, valsant avec elle sous les regards enflammés du comte, mais n'arrivant pas à trouver un expédient pour se rapprocher d'elle en secret. Pour dérouter le mari, Gaston simula un départ pour Moscou. Il disparut pendant 2 jours et rentra secrètement chez lui. Le comte, rassuré, se relâcha de sa surveillance et la belle russe put venir 3 fois chez le duc. La comtesse laissait sa voiture devant le portail de Saint-Alexis, entrait dans l'église, puis, sortant par un des bas-côtés, allait d'un pied léger à son rendez-vous. À la 3e fois, l'alarme fut donnée par le valet de pied qui, ayant sournoisement suivi la comtesse, courut prévenir le comte. Celui-ci, furieux, arriva chez Bligny, mais dut parlementer avec le valet de chambre, un Parisien, roué comme mascarille. Pendant ce temps, la charmante comtesse, affolée, cherchait avec Gaston une issue. C'est en cette circonstance que la vigueur nerveuse du jeune indolent se révéla superbement. La salle de bain de son hôtel donnait sur la cour d'une maison voisine. Mais la fenêtre de cette salle était fermée par des barreaux de fer. En un instant, d'un effort effrayant de ses muscles tendus à se briser, Gaston tordit un barreau et Madame Vorsev put fuir. Quelques secondes plus tard, le comte, introduit auprès de Bligny paisible et souriant, était obligé de constater le mal fondé de ses soupçons et de se retirer en faisant des excuses. Le comte dévora sa rage et sut montrer à sa femme un visage calme. Et des informations habilement prises ayant fortifié sa conviction, il résolut de forcer le duc à se battre. Il se rendit au cercle et prit la banque. Puis, les cartes étant épuisées et Gaston ayant coupé, le comte, brutalement, déclara vouloir cesser la partie. Le duc demanda froidement des explications. Le comte refusa d'en donner. Une provocation s'ensuivit. La conduite de Vorsev fut unanimement blâmée, mais le résultat que le mari cherchait était atteint. Le lendemain, une rencontre eut lieu. On se battit, par une jolie gelée, dans un petit bois de bouleau, au pistolet, à 20 pas, feu à volonté. Gaston, fort respectueux de sa vie, ne fit pas de générosité au mari de sa maîtresse. Au signal, il tira et logea une balle dans le ventre de son adversaire. Le comte, étendu sur la neige rougie, se releva alors sur un genou avec une énergie farouche et, s'appuyant sur le coude, ajusta froidement Bligny. Mais la faiblesse que lui causait déjà la perte de son sang fit trembler sa main et il n'atteignit le duc qu'à l'épaule. Le comte survécut à sa terrible blessure. Quant à Gaston, au bout de 6 semaines, il avait repris son train d'existence. Mais, fait singulier, la balle du comte Vorsev semblait avoir coupé la veine extraordinaire du jeune duc. Était-ce le sang tiré qui avait dérangé l'équilibre heureux de ses facultés? Ou bien Gaston, favorisé jusque-là, avait-il lassé la fortune? À partir de ce jour, il fut brouillé avec le succès, il perdit sans relâche. Sa superbe assurance le quitta et il connut les incertitudes du joueur qui flaire la mauvaise carte. Il ne jetait plus son argent sur la table avec un aplomb de vainqueur. Il ne dominait plus ses adversaires par son imperturbable sérénité. Il pâlissait maintenant. Ses mains inconscientes battaient nerveusement sur le rebord de la table des marches saccadées. Ses yeux s'enfonçaient tout noirs sous ses sourcils et ses dents blanches mordaient ses lèvres. Il eut des abandons et des faiblesses. Sa belle tenue d'autrefois s'avachit et se cassa. Il quittait le jeu aux premières lueurs du jour, les cheveux dépeignés, la cravate dénouée sur son col ouvert, le plastron de sa chemise froissé et noirci par le frottement du drap vert des tables. Il redescendit, un à un, les degrés de cette montée vers le succès qu'il avait gravi triomphalement. Et l'argent du jeu si promptement acquis fut dissipé avec une terrifiante rapidité. Le duc fut embarrassé. Il se décida à l'emprunt, ce signal de la culbute prochaine. Ayant besoin des autres, il se sentit déchu et s'en affecta. Il jouissait autrefois délicieusement d'être le souverain de ce monde de viveurs. La chance l'élevait au-dessus de tous ses compagnons. On le traitait en maître, et il était orgueilleux de cette suprématie. Son piédestal croula en un instant. Du jour où il ne gagna plus, pour ses joueurs, il cessa d'exister. Quand il arrivait au cercle, maintenant, on ne l'accueillait plus par un silence recueilli. Il récoltait à droite et à gauche quelques poignées de mains banales, nul ne se détournait du jeu. Il se perdait dans des groupes indifférents, on ne le craignait plus. Jamais sa passion pour le jeu ne fut aussi violente que dans cette passe difficile. Il mit dans ses attaques une frénésie aveugle. Il ne raisonna plus ses coups. Il perdit et gagna en une nuit des sommes énormes. Il n'était plus le cavalier habile qui dirige sa monture. Il était l'écuyer perdu, emporté au galop vertigineux d'un cheval qu'il ne cherche pas à maîtriser et qui a plus de chances de se rompre les os que d'atteindre le but. Il n'atteignait pas le but, en effet. Et pour lui, les retours de fortune étaient inutiles. Il ne savait plus en profiter. Il s'acharnait comme un fou et reperdait tout ce qu'il avait gagné. Son ambassadeur le sauva d'un désastre inévitable. Il le chargea d'une mission pour le gouvernement de Paris. Le duel avec le comte Vorontsov avait fait très mauvais effet. Le diplomate trouva bon d'éloigner le jeune duc pour quelque temps, et il lui donna un congé de 3 mois. Cette mission qu'il n'avait pas sollicitée, par un amour-propre de combattant qui ne veut pas avoir l'air de déserter la lutte, Bligny l'accepta avec joie. Il se sentait usé à Saint-Pétersbourg. Il avait hâte de disparaître, de se recueillir et d'arrêter un plan de conduite. Il ne lui restait plus qu'une 50 000 francs d'argent liquide, fonds extrême de sa bourse de jeu, qui avait été pendant un temps un véritable trésor. Avec le dénuement, ses idées se modifièrent subitement. Dans le désordre de sa vie à outrance, le souvenir de Claire s'était perdu. Il se remit à penser à sa fiancée. Il revit dans un mirage délicieux le salon reposé et calme de l'hôtel de Beaulieu. À la clarté douce des lampes, Claire travaillait, penchée sur sa broderie, et ses beaux cheveux blonds étincelés, dorés par la lumière. Elle l'attendait patiemment, en soupirant peut-être. Il se reprit à l'aimer et fit le serment de renoncer à la fiévreuse existence à laquelle il avait dû tant d'âpres joies et tant de cruels soucis. Il pensa que, si les débris de fortune que lui avait laissés son père étaient dissipés, Mademoiselle de Beaulieu était riche et qu'avec les 100 000 francs de rente de sa dot, un jeune ménage pourrait faire honorable figure. La vie, à Paris, était loin de coûter aussi cher qu'à Pétersbourg, et puis le temps des folies était passé. On resterait 6 mois dans ces terres pour faire des économies et on consacrerait la plus grande partie du revenu à mener un train suffisant pendant l'hiver. Le duc se retrempa dans ses idées et se sentit redevenir tendre et bon. Il se trouva un autre homme et il jouit délicieusement de ce retour à ses premiers rêves de jeunesse. Tout le long de la route, il caressa de charmants projets d'avenir. Et quand le train s'arrêta sous les hangars vitrés de la gare du Nord, il sauta lestement sur le quai de débarquement, reprenant avec joie possession de ce Paris, loin duquel son esprit et son cœur s'étaient si gravement égarés. C'était le soir. Il prit un plaisir d'enfant à regarder, par la portière de sa voiture, l'enfilade immense de la rue Lafayette, semée de ses innombrables becs de gaz. Le mouvement de la grande ville le saisit. L'allure des passants lui parut avoir une vivacité, un entrain particulier. La circulation dans les rues était bruyante. Au carrefour du faubourg Montmartre, il tomba dans un embarras de voitures. Les cochers s'apostrophaient vivement et, jusque sous la tête des chevaux, les piétons se glissaient, pressés de passer. Son fiacre repartit et longea le grand mur en meulière du jardin de l'hôtel Rothschild, puis il tourna par la rue du Helder et tout à coup, le duc se trouva en plein boulevard. Il éprouva un saisissement. Des équipages se suivaient à la file, allant à l'opéra. Au fond, des vastes landaux apparaissaient dans leurs élégantes sorties de bal, des femmes, la tête entourée d'écharpes de dentelle. Les clartés intermittentes du Jablochkov, qui jetaient une lumière blafarde sur la façade du théâtre, percée de trous sombres, faisaient étinceler les casques des municipaux à cheval, enveloppés dans leurs manteaux, et qui restaient plantés, immobiles, au milieu de la place. C'était à ce croisement des rues et du boulevard un mouvement énorme. Les devantures des magasins flamboyaient dans l'obscurité, les trottoirs étaient noirs de monde. C'était le tableau magique de Paris la nuit qui s'offrait là dans toute sa terrible et puissante splendeur. Le fiacre tourna dans la rue de la Paix et, quelques instants après, Gaston était à la porte du cercle. Il descendit de sa voiture, un peu étourdi, les oreilles pleines encore du bruit énervant du chemin de fer, les yeux brouillés par les lumières. Fatigué, il monta dans la chambre qu'on lui avait préparée et il dormit d'un trait jusqu'au lendemain matin. Gaston n'était pas resté assez longtemps éloigné de Paris pour que ses habitudes de boulevardier eussent disparu. Il reprit pied tout de suite sur l'asphalte. Son mauvais vernis russe tomba en un instant. Il se retrouva parisien des talons à la tête. Pendant 2 jours cependant, il eut l'ivresse de Paris. Il se promena aux Champs-Élysées, au bois. Il alla flâner à l'hôtel des Ventes, il fit les 1000 pas entre la Madeleine et le boulevard Montmartre, heureux de donner des poignées de main et d'échanger des coups de chapeau. Il courut les petits théâtres et se renversa délicieusement dans son fauteuil d'orchestre trop étroit et en parfaitement rembourré. Il trouva exquises des pièces qui étaient idiotes. Il avait un contentement intérieur qui débordait en admiration continue. Au fond, il était comme délivré depuis qu'il avait quitté la Russie. Il avait l'air d'avoir rompu son banc, de s'être évadé du bagne. Il était libre maintenant, il respirait. Ses affaires au ministère furent terminées en 3 jours. Il décida qu'il partirait à la fin de la semaine. Il voulait surprendre Claire et la marquise, qu'il savait à Beaulieu. D'avance, il jouissait de leur surprise, il entendait leurs cris de joie. Pour un empire, il n'aurait pas renoncé à ce plaisir d'arriver à l'improviste. Il était allé, en flânant, rue de la Paix, acheter chez Bassot, le joaillier de la famille, une admirable bague de fiançailles, un énorme saphir entouré de brillants, monté avec une perfection rare. Il se voyait offrant à Claire l'écrin de velours blanc armorié. Celle-ci l'ouvrait et, grave, souriant doucement, elle lui tendait le cercle d'or pour qu'il le passât lui-même à son doigt fin terminé par un ongle rose. Et cette fois, c'était bien fini, il était son époux, la bague était le premier anneau de la chaîne qui devait les unir. La veille de son départ, le duc, en rentrant du théâtre, trouva le cercle plus animé que les autres soirs. Il s'informa. On lui apprit que tout ce mouvement, cet éclat, ces lumières, étaient causés par une représentation extraordinaire donnée dans la salle des fêtes. Un public d'élite était rassemblé pour entendre l'éducation de la princesse, opérette en 2 actes, due à la collaboration de 2 hommes de talent appartenant au meilleur monde, le duc de Ferrare pour les paroles et Monsieur Jules Trélan pour la musique. L'interprétation était remarquable. Baron, des variétés, prêtait sa distinction native au rôle du grand chambellan. Daubré, du Palais Royal, interprétait le personnage scabreux du chevalier Alphonse de Rouflaquette. Saint-Germain, du Gymnase, avait consenti pour une seule fois à se révéler grand chanteur dans le rôle de Pépinster. Le jeune baron trésorier, membre du cercle, possesseur d'une charmante voix de ténor, avait été chargé du personnage de Triolet. Madame Judic faisait la princesse Hortensia et Suzanne Lagier la reine-mère. On s'attendait à un succès formidable. Les valets de pied de service étaient débordés, tout le monde arrivait en même temps pour être bien placé. et du large vestibule orné de belles tapisseries Louis XIV, un murmure de voix, un froufrou de robes rajustées par petits coups avec la main, venait jusqu'au duc avec des bouffées d'air chaud saturées d'une fine odeur de poudre à la maréchale. Au lieu de monter se coucher, le duc jeta son pardessus à un valet de pied et, aplatissant son gibus, il entra. Une circonstance bien futile, souvent, décide ainsi de la destinée des hommes. Bligny, en allant écouter l'éducation de la princesse, ne se doutait guère qu'il venait de modifier gravement son avenir. La salle des fêtes était étincelante de lumière. Sur des chaises, attachées les unes aux autres, une nombreuse assistance se pressait. C'était un assemblage de satin, de velours, de gaze et de soie, gamme de couleurs éclatantes, au milieu desquelles resplendissait la blancheur des épaules nues. Le battement léger des éventails agitait cette foule énorme d'un mouvement d'ailes. Un bourdonnement de conversation discret et étouffé s'élevait de temps à autre quand une personne connue entrait dans la salle. Au fond, le théâtre silencieux, sévère, fermé au regard par son rideau rouge. Le duc se dirigea vers un groupe d'habits noirs parmi lesquels il venait de reconnaître quelques amis. Au centre trônait, très entouré, maître Escande, jeune notaire nouvellement pourvu de sa charge et futur héritier de parents archimillionnaires. Mis avec une élégance irréprochable, il parlait d'un air d'importance. Mais la vue de Bligny parut avoir cloué sa langue à son palais. Il resta la bouche ouverte, regardant stupéfait le duc qui approchait en souriant. Et un grand silence se fit, coupé seulement par cette réflexion « Oh, c'est vraiment bien dommage !» poussé d'un air navré par un vieil homme chauve, de taille élevée, vêtu d'un habit qui sentait l'ancien négociant, le visage très rouge encadré de larges oreilles, surmonté de touffes de cheveux jaunes, le cou maintenu par une haute cravate blanche, des boutons en diamant à sa chemise et les pieds chaussés d'escarpins vernis découverts, laissant apercevoir le coton blanc des bas. Bligny était entré dans le groupe et, ayant serré la main à ses amis, il attendait, très intrigué par ce silence qui lui semblait extrêmement éloquent. Il allait demander de quoi il s'agissait et comment son apparition pouvait causer un tel malaise aux assistants lorsque le vieil homme se pencha vers un des amis du duc, lui murmura à l'oreille, assez haut pour être entendu et pour qu'un refus ne fût pas possible, « Présentez-moi donc au duc !» L'ami se tourna vers Gaston avec un air très ennuyé et très étonné à la fois, qui signifiait clair comme le jour « Quelle fantaisie étrange à cet Olibrius !» Puis, se résignant, « Mon cher duc, monsieur Moulinet !» Industriel, ajouta vivement l'homme aux boutons en diamant, ancien juge au tribunal de commerce. Et d'un air pénétré, s'emparant des mains du jeune homme, il reprit « J'ai l'honneur, monsieur le duc, de connaître votre famille. Mademoiselle Moulinet, ma fille, a été élevée au couvent avec mademoiselle de Beaulieu, votre cousine. Oui, monsieur, au Sacré-Cœur, la première maison de Paris. Pour Athénaïs, je n'ai regardé à rien. Tout ce qu'il y avait de mieux n'était pas encore assez bon pour elle. Et je vous prie de croire que j'ai appris, avec bien du regret, la fâcheuse nouvelle. » Depuis un instant, M. Escande se démenait au risque de froisser le devant de sa chemise ou de déranger le nœud, artistiquement construit, de sa cravate. Il faisait le télégraphe avec ses bras, il piétinait, il prodiguait les « hum, hum ». Mais Moulinet, trop lancé pour s'arrêter et peut-être ne voulant pas comprendre, ce qui arriva plus tard pourrait le laisser croire, poursuivait ses compliments de condoléances. « Pardon, fit le duc en fronçant le sourcil, mais je ne saisis pas très bien. Vous me parlez, monsieur, d'une fâcheuse nouvelle qui paraît toucher ma famille et atteindre spécialement mademoiselle de Beaulieu. Je ne sais ce que vous voulez dire. Veuillez, je vous prie, vous expliquer plus clairement. » Maître Escande parut tout à fait contrarié, et comme Moulinet restait silencieux, la tête baissée, semblant se désintéresser de la question, le jeune notaire prit son parti et, s'avançant vers Bligny, « Mon Dieu, mon cher duc, dit-il d'un ton solennel, je suis fâché que vous appreniez ce soir, et dans un endroit si peu fait pour une semblable confidence, le fait auquel M. Moulinet vient de faire allusion. Cependant, comme vous sauriez certainement demain à quoi vous en tenir, il n'y a pas d'inconvénient à vous éclairer sur le champ. Eh bien, quand vous êtes entré, j'apprenais à ces messieurs qu'étant allé pour affaires en Angleterre, j'ai appris, avant qui que ce soit, que le procès engagé de son vivant par le marquis de Beaulieu et poursuivi par ses ayants droit venait d'être perdu sans appel possible. » À cette révélation si inattendue, le duc pâlit. La perte de ce procès, sur lequel Madame de Beaulieu fondait de si grandes espérances, c'était la ruine pour Claire. Gaston fit un effort et, dominant son trouble, « Permettez-moi, mon cher maître, dit-il avec hauteur, de m'étonner de la facilité avec laquelle vous faisiez à ces messieurs des communications relatives à la famille de Beaulieu. Je ne pensais pas que les affaires des miens fussent de nature à servir de texte au racontard des indifférents et au cancan des désœuvrés. Je vous serais très obligé si, à l'avenir, vous vouliez bien montrer moins d'abandon. » Le jeune notaire blêmit à ces mots. La bouffissure de son visage se coupa de petites rides produites par l'agitation de ses nerfs. Il secoua la tête en respirant bruyamment et prenant un air froissé. « Mais, mon cher duc, croyez bien !»« Je crois ce qu'il faut !» interrompit sèchement Bligny. Et, toisant son interlocuteur, il s'éloigna lentement, suivi de ses amis silencieux. Moulinet et Escande, restés en présence, se regardèrent un instant sans parler, puis l'industriel, grimaçant un sourire. « Rue de sang, c'est Bligny. Vous avez été vivement ramené, hein, mon cher maître ? Et j'ai eu ma part des éclaboussures. Ça m'est égal, rue de sang. Ruiné, celui-là, hein ?»« À plate couture, dit le notaire avec dédain, et il fait le grand seigneur, il tranche, il donne des leçons. » « Parfaitement. Voyez-vous, mon cher, les révolutions auront beau faire, nous ne serons jamais les égaux de ces gens-là, et ce duc sera un mari bien avantageux pour une fille riche. » Les trois coups, frappés à intervalles espacés sur la scène, avec une lenteur solennelle, interrompirent la conversation. Escande et Moulinet s'assirent. Le duc était allé se placer un peu plus loin. L'orchestre taquait l'ouverture. Une valse brillante, d'un rythme caressant, déroulait sa mélodie légère. Le duc, attentif en apparence, réfléchissait profondément. Cette ruine de Claire était un coup de foudre qui anéantissait son avenir. Il était fiancé à Mademoiselle de Beaulieu et elle était pauvre. Pas un instant, il faut le dire à sa louange, Gaston ne songea à ne point tenir ses engagements. L'idée ne lui vint même pas qu'il pourrait épouser une autre femme que Claire. Il se considérait comme lié. Il avait sur lui, près de son cœur, dans les crins de velours blanc frappés des armoiries de Beaulieu et des Blinis accolés, la bague de fiançailles. Mais il était plus sûrement enchaîné par sa parole qu'il ne l'aurait été par cet anneau. Cependant, Claire ruinée, c'était la médiocrité pour toute la vie, la nécessité de se confiner au fond d'un château de province et d'y végéter en gentilhomme fermier, comme un vrai loup, sans voir personne, dans la crainte de la dépense. C'était pour le beau, le séduisant, le recherché Gaston, un ensevelissement en pleine force, en plein éclat. Il regretta amèrement d'avoir dissipé les sommes énormes qu'il avait gagnées. Si peu acceptable que fût cet argent du jeu, c'était encore de l'argent. Et vivre sans ressources dans ce siècle si positif, où chacun n'était estimé qu'à sa valeur pécuniaire, ce n'était pas vivre. Puis il pensait avec attendrissement au désespoir de Claire et de sa mère quand elles apprendraient la fatale nouvelle. Elles l'ignoraient encore, puisque ce sot d'Escande l'avait rapporté toute chaude d'Angleterre. Gaston eût voulu avancer son voyage pour être plus tôt auprès de ces pauvres femmes, se trouver à même de leur adoucir le coup et de les consoler. La toile s'était levée, montrant un décor printanier et vermeil. Dans un paysage ensoleillé, le cœur des moissonneurs et des moissonneuses était en scène et chantait à tue-tête, sur un air de bourrée très enlevé, ses paroles d'une faible originalité. « Chantez, belle fille, glanez, beau garçon, levez vos faucilles au bruit des chansons. » Et, comme si ces banales paroles eussent jeté le duc dans un nouveau courant d'idées, il se voyait à Beaulieu, avec Claire, sous le ciel bleu. Les moissonneurs chantaient dans les blés, une chaleur bourdonnante montait de la terre. Il était pénétré d'une langueur délicieuse. Et, auprès de celle qu'il aimait, il se sentait heureux de sa pauvreté. C'était un calme si profond, une douceur si paisible, après les orages de sa courte existence de viveur. Il en jouissait pleinement et il entrevit dans cette médiocrité, à laquelle la ruine de Claire le condamnait, des satisfactions inconnues et captivantes. Sur la scène, la pièce se développait et le chevalier Alphonse de Rouflaquette chantait son grand duo avec la princesse. La voix caressante et chaude de Judith murmurait avec une ardeur passionnée
« Viens, à ma grandeur, pour toi je renonce. Quittons mon palais, désertons ma cour. »
Et Daubré, passant la main sur ses accroche-cœurs blonds, répliquait avec un coup d'œil scélérat
« Non pas, la grandeur n'exclut pas l'amour. Richesse et pouvoir, conserve en ce jour, conserve tout pour ton Alphonse. »
Et l'artiste aimé avait couronné sa phrase d'un point d'orgue prodigieux qui avait excité des trépignements d'enthousiasme. L'éducation de la princesse s'annonçait comme un énorme succès. Le directeur des variétés, devenu rêveur, songeait déjà à cette petite machine pour l'hiver suivant. Moulinet, allongé sur sa chaise, dodelinait la tête comme un ours qui entend jouer de la flûte. Il ne songeait guère à suivre les aventures de la princesse Hortensia. Une autre princesse l'intéressait bien davantage. C'était sa fille, la brune Athénaïs. Il la voyait au couvent, toute petite avec sa robe trop courte, ses gros souliers et ses mains rouges, visage ingrat et imparfaitement dessiné, corps anguleux et dégingandé, en plein travail de formation. Elle venait au parloir, au milieu de ses camarades élégamment habillés, qui la toisaient avec un air de dédain. Il n'était pas encore riche à cette époque-là, le père Moulinet, et il n'avait pas encore fondé sa grande fabrique de chocolat de Villepinte, ni inventé les prospectus sur papier bleu, rédigés en style de dentiste, qui avait fait connaître ses produits dans les plus petites communes de France. Il vendait alors des denrées coloniales en gros. Et les nobles mères des camarades d'Athénaïs ne se gênaient pas pour manifester leur étonnement de ce que l'héritière de cet épicier avait été admise comme pensionnaire. Les échos des petites intrigues de classe étaient venus jusqu'à lui. Il savait avec quelle arrogance sa fille était traitée par les élèves. Et, à la tête de la coterie opposante, les nobles, comme on les appelait, il se rappelait que c'était la fière mademoiselle de Beaulieu qui se trouvait. Que de fois il avait entendu Athénaïs laisser échapper des paroles de colère à l'adresse de son ennemi. Elle jurait, en pleurant, qu'elle se vengerait. N'était-elle pas venue, la vengeance, et sans qu'on ait mis la main pour la préparer? Athénaïs Moulinet était maintenant une des plus riches héritières de Paris, et l'orgueilleuse Claire de Beaulieu était une fille sans dot. La fille de l'épicier, habillée chez Worth, coiffée à l'air de son visage, habituée au luxe, s'était dégrossie, transformée et, illuminée par son auréole de millions, passait pour une des plus jolies personnes de la riche bourgeoisie. La fille de la marquise, vêtue d'une petite robe simple, allait vivre en province, disparaître dans l'obscurité et, qui pouvait savoir, peut-être manquer le mariage préparé de longue main pour elle. Le duc de Bligny, un si brillant gentilhomme, porteur d'un si beau nom. Bien souvent, lorsque le jeune duc venait avec sa tante et la marquise voir Claire au Sacré-Cœur, Athénaïs avait blêmi de rage en les voyant côte à côte. Elle les devinait destinés l'un à l'autre. Claire serait duchesse. Et elle, Athénaïs, elle épouserait quelque notaire, un escande ou un industriel comme son père, et ferait souche, à son tour, de filles humiliées ou de garçons regardés de haut. À cette pensée, Moulinet ébaucha un orgueilleux sourire. Il se renversa en arrière et, enfonçant sa main dans un de ses goussets qui rendit un son argentin de pièces remuées, il murmura ces mots « Pourquoi donc ça? Est-ce que mes moyens ne me permettent pas de lui payer le mari qui lui plaira ?» Il se retourna d'un air grave et, fixant ses yeux sur la foule élégante qui l'entourait, il sembla chercher le gendre qui lui conviendrait. Il était étayé par ses millions et rien ne lui semblait impossible. Quel était l'audacieux qui repousserait la main d'Athénaïs quand on la lui présenterait, tenant un chèque dont la valeur serait indéterminée? Était-ce un comte, un marquis? Quelle somme fallait-il pour se le procurer? On n'avait qu'à parler. Moulinet pouvait aussi bien donner 10 millions qu'un seul. À l'encan, le mari. Le père était assez riche pour acheter un prince à sa fille. Et son regard devint hardi, presque menaçant. Il erra vaguement sur tous ces visages inconnus et vint s'arrêter sur celui du duc de Bligny. Le jeune homme était sombre. Moulinet se dit, il pense à sa cousine. Et une sourde irritation s'empara de lui. Dans quel ordre d'idées assez confuses entrait donc Moulinet? Certes, il n'aurait pu l'expliquer. Cependant, un commencement de projet germait déjà dans son esprit. Un grand brouhaha se produisit dans la salle. Le rideau venait de tomber sur le premier acte de l'opérette. Au milieu des applaudissements et des rappels, le duc s'était levé, accompagné de ses amis, et d'un air indifférent, marchait vers la sortie. Moulinet le suivit un instant des yeux, puis, quittant sa place, il prit la même direction que les jeunes gens. Au second étage, la partie n'avait pas été interrompue par la fête. Les salons réservés aux jeux étaient restés silencieux et paisibles. C'était à peine si les refrains de l'opérette parvenaient comme un vague murmure aux oreilles des joueurs. Rien n'avait pu les distraire. Ils savaient qu'on s'amusait en bas, mais que leur importait? Leur plaisir à eux était sur cette table en forme de fer à cheval, sous ce gaz brûlant qui desséchait leur cerveau. Les femmes élégantes et parées, sentant bon dans leurs fraîches toilettes, étaient groupées comme un bouquet de fleurs. Ils ne s'en souciaient guère. La dame de pique et la dame de cœur étaient 100 fois plus attrayantes à leurs yeux. Et insensibles aux séductions de la fête, sourdes aux voix qui chantaient, à l'orchestre qui faisait rage de tous ses instruments joyeusement déchaînés, ils restaient là, dans une chaleur lourde et énervante, à jeter de l'argent sur le tapis vert. Machinalement, le duc avait gagné les salons. Il allait sans direction et comme au hasard. Était-ce donc sa destinée qui l'amenait encore une fois, après tant de belles résolutions, au bord de cette table? Le banquier venait de dire « Messieurs, faites vos jeux !» Gaston, tirant un billet de 1 000 francs de sa poche, le laissa tomber d'une main distraite. Il gagna. Il laissa échapper un « Tiens !» plein de surprise. Il avait désappris le succès. Il fut curieux de voir si sa veine persisterait et il s'assit. Moulinet, au même moment, entrait dans la salle de jeu. C'était la première fois qu'il y mettait le pied. Il avait par principe horreur des jeux dits de hasard. Il voulait pouvoir corriger la chance par l'habileté. Il jouait volontiers au bésigue. Il ignorait le whist. Cependant, il s'approcha de la table et voyant que Gaston laissait ses 100 louis sur le tapis, il mit gravement 10 francs à côté de la masse du duc. Visiblement, Moulinet voulait avoir le droit de surveiller Bligny. Désirant ne pas paraître indiscret, il achetait ce droit en jouant. Moulinet était l'homme des concessions utiles. La partie continuait, mais la chance avait tourné. Il semblait que les 10 francs du vertueux industriel eussent rompu le charme. Bligny pâlissait, repris par sa passion, engageant furieusement ses derniers billets de banque. Moulinet, dédaigneux du gain, continuait à jouer 10 francs. Lorsque, au jour levant, la partie cessa faute de joueurs, le duc perdait 40 000 francs. Depuis longtemps déjà, Moulinet, édifié sur le sort du fiancé de Mademoiselle de Beaulieu, dormait d'un sommeil paisible dans son superbe hôtel du boulevard Malesherbes. Gaston, la tête vide, énervé et brûlant, à l'heure où il aurait dû prendre le train pour aller à Beaulieu, monta dans sa chambre et, s'accoudant à la barre d'appui de sa fenêtre, regarda dans la rue de la Paix les balayeurs qui commençaient leur travail matinal. Une fraîcheur exquise le ranima, le ciel pur était légèrement teinté de rose. Le jeune homme se dit « J'ai fait une sottise cette nuit, mais je partirai ce soir. Au diable le baccarat !» Il s'habilla, descendit, prit une voiture et se fit conduire au bois de Boulogne. Le soir, il ne partit pas et retourna au jeu. Pendant ce temps-là, Claire, inébranlable dans sa confiance et immuable dans son amour, attendait le retour de son fiancé.